Bonjour, c'est Jean-Marie Marcos sur Radio Axe pour Invitation au Bonheur. Et comme chaque lundi, je reçois un invité différent. Et cette semaine, mon invité est...
Michael Brami, enchanté.
Michael, eh bien merci de venir dans mon émission. Ça fait longtemps que j'avais envie de t'avoir, ainsi qu'un membre de notre club. Nous allons parler de ce qui nous rapproche. Parce qu'en fait, moi j'ai découvert Michael il y a 5 ans, lorsqu'avec d'autres camarades, nous avons créé le Lions Club de Houille, Victor Schweitzer. Je ne le connaissais pas auparavant, j'avais déjà rencontré, mais j'ai appris à le connaître et j'ai appris à l'apprécier. Donc je suis vraiment très ravi de t'avoir aujourd'hui dans mon émission. Alors Michael, pour nos invités, pour nos auditeurs plus exactement, qui es-tu ?
Qui je suis ? Alors à la base, je suis assureur, donc ça c'est ma profession, ça n'a pas d'importance. À la base, mais c'est une couverture en fait, assureur. En vrai, je suis artiste. Il faut le dire comme ça.
Tu es un artiste.
Voilà, c'est dans mes gènes.
Et quand on parle d'artiste, on parle d'art. Quels sont les arts que tu aimes, professer ou réaliser, en fait ?
J'ai commencé jeune par de la musique. J'ai fait 6 ans de piano, je ne sais toujours pas en jouer. Ça arrive. Hein. je connais le solfège, mais je ne sais toujours pas jouer de piano.
Et donc comme c'est une base.
Voilà, d'accord. Et comme ça m'énervait, je me suis mis à la batterie.
D'accord.
Et c'est à partir de là que ça a commencé à démarrer.
D'accord, mais bon, le piano, c'est déjà un instrument à percussion, en fait, au départ.
Exactement, c'est des marteaux qui frappent sur des cordes, exactement.
D'accord. Du chant aussi ?
J'ai fait ensuite le chant, parce qu'en fait, la batterie, c'est derrière, et moi, j'ai besoin d'être devant.
Ah ah,
et
sous
ouais,
la lumière.
Gros trait de caractère qui... Voilà, ça a toujours
été. Oui, Michael ne passe pas inaperçu, hein. Quand il entre quelque part, tout le monde s'arrête. Alors, la batterie, le chant...
Ouais.
D'autres instruments ?
Bah oui, parce qu'après... alors, c'est pas un instrument, c'est un art, entre guillemets. Hein, je fais des guillemets, ça se voit pas à la radio. C'est le théâtre.
D'accord. Voilà, et comment tu es arrivé au théâtre, d'ailleurs ? Ça m'intéresse.
Ah, ça, c'est plus une question de par rapport au fait que je suis... C'est pas prétentieux ce que je dis, c'est pas avoir les chiffres qui enflent, mais dans un groupe, il faut toujours avoir une locomotive. Et à un moment donné, j'en ai eu marre d'être la locomotive, et j'avais besoin de faire les choses pour moi. Donc j'ai fait du théâtre, parce que j'estime que le théâtre, c'est moi et moi seul. Si j'ai envie d'aller à une répète, si j'ai envie de faire un truc, si j'ai envie de le faire, si je suis dispo ou pas, j'ai pas à gérer l'emploi du temps des autres, c'est moi. J'y vais, et c'est tout.
Alors, le théâtre, c'est aussi une troupe, c'est aussi comme
oui.
Dans un orchestre, aussi un partage des rôles.
Exactement.
Et donc, toi, c'était plutôt le théâtre seul en scène qui t'intéressait ?
D'abord, j'ai d'abord créé une troupe. Je me suis retrouvé dans la même situation qu'avec le groupe.
Oui.
Donc, je me suis parti, effectivement, sur le seul en scène.
D'accord.
Le one man.
Parce que, voilà, donc moi, je t'ai vu, en effet, jouer une pièce de théâtre.
Ouais.
C'était Cuisine et Dépendance.
C'est ça.
De Jaoui Bakri,
ouais.
Où tu jouais le rôle initial joué par Bakri.
Ouais.
Et voilà, et c'était très appréciable en voyant en effet que tu y prenais beaucoup de plaisir et tu étais en effet très crédible. Et donc, finalement, tu avais envie aussi de sortir de ce cadre collectif pour te mettre seul en scène.
Toujours pareil, le fait d'avoir quelqu'un qui va chercher les dates, parce que nous, on n'a pas. De manager, on n'a pas toutes ces personnes qui nous entourent et qui trouvent les choses pour nous, donc c'est nous-mêmes qui allons les chercher.
D'accord. Ça veut dire que c'était toujours en amateur.
Ça a toujours été en amateur jusqu'à D'accord. présent. Alors même si effectivement avec à l'époque le groupe, on avait été signé par un label, c'est pas allé beaucoup plus loin.
D'accord. C'est pas allé pour
que
lui.
Ça.
D'accord.
Non. Même si on avait été distribué en Fnac, etc. Mais bon, voilà.
Ok. Et seul en scène aujourd'hui, comment tu as fait pour te retrouver tout seul comme ça, c'est-à-dire est-ce que tu as eu besoin de quelqu'un pour te mettre en scène, pour t'écrire des textes, est-ce que tu écris tes propres textes, comment ça fonctionne?
Avec beaucoup de mal j'écris mes textes, j'ai toujours besoin de gens qui veulent bien m'aider autour de moi, il faut que ce soit aussi sur l'écriture, il faut que ce soit un système de ping-pong, il faut que ce soit un échange avec une personne pour que ce soit efficace sur le moment.
C'est ton fonctionnement, ça. Tu as besoin du regard de l'autre, de l'écoute de l'autre. Tu as besoin d'utiliser l'autre aussi comme un miroir réfléchissant pour te renvoyer ce que tu...
C'est un moment...
Pour savoir si c'est efficace.
C'est ça. À un moment, ce que j'écris, c'est que quand je me relis, je trouve que c'est de la merde. Donc, j'enlève. Voilà. C'est clair. Sur une page complète, s'il y a deux trucs intéressants, c'est bien, en fait. Et je classe, mais ça c'est une méthode, je classe tout ce que j'écris, je classe de 1 à 5 pour savoir l'efficacité du texte.
D'accord, donc c'était l'échelle de Richter du tremblement de rire, c'est ça?
C'est ça.
Parce que en fait, ce sont des textes comiques. Voilà, ce que tu fais, c'est du one man show, c'est du.
Et c'est difficile. D'accord. De faire rire. Beaucoup plus que de faire pleurer.
Et tiens, justement, je vais en profiter pour avoir une réponse. Quelle différence il y a entre le one man show et le stand-up?
Alors, le one man show, ça englobe le stand-up, ça englobe plusieurs formes d'humour.
Oui.
Le stand-up, le sketch, le sketch-up, etc. C'est dedans qu'on va aller sur les différences. Le one man, c'est ce qu'on appelle, et il y a aussi d'ailleurs le seul en scène. C'est pas parce que c'est un one man show qu'on n'est pas seul en scène. Seul en scène, ça peut très bien être un moment de vie, pas forcément humoristique. Le dialogue du vagin, par exemple, c'est pas un truc humoristique à la base, c'est un seul en scène.
D'accord.
C'est quelqu'un qui va raconter quelque chose.
Ouais, Lucchini prend un texte et il nous en fait une lecture éclairée.
Voilà.
Ça, c'est du seul en scène, mais d'accord, mais c'est pas du one man show.
C'est dans le one man show.
Ah d'accord, ça fait partie. Dans la famille one man show, c'est le seul en scène.
Il y a plein de formes d'humour. Hein.
Alors, la différence entre faire un sketch, dérouler un sketch devant les gens et faire du stand-up, c'est quoi?
Le sketch, ça va souvent être l'incarnation d'un personnage avec d'autres personnages. Le stand-up, pardon, ça va surtout être une description. Souvent, les gens vont parler d'eux-mêmes.
D'accord. Je raconte une tranche de ma vie. Ça, c'est du stand-up.
Voilà.
Par contre, j'invente un personnage et je joue le personnage. Ça, c'est du sketch.
Voilà. Et après, il y a le sketch-up, c'est-à-dire que les mecs qui font du stand-up et qui dedans vont incorporer des personnages pour faire vivre une situation à un moment
précis. Donc, c'est le mix.
C'est le mix.
D'accord.
Ouais.
D'accord. SketchUp, moi, je crois que c'était la même chose, mais avec de la sauce tomate. Tu vois, comme quoi.
Ouais,
d'accord.
Ouais.
Très bien. Bah, écoutez, là, c'est bien. J'ai appris plein de choses. Mais alors, ça ne m'a pas parlé de ton bonheur, finalement. Parce qu'on parle du bonheur dans cette émission.
Oui.
Est-ce que c'est un bonheur d'être sur scène, devant son public, avec la lumière uniquement sur soi, son micro à la main, et on y va?
Ouais, c'est. C'est assez. Enfin. Si les gens n'ont jamais fait de scène, c'est assez indescriptible comme moment, parce que c'est là où en fait on est sans filet, on est seul. C'est pas comme le cinéma où on peut refaire la scène. Là, c'est...
Parce que c'est du théâtre, voilà, donc on est en train de vivre une situation unique devant un public.
On se livre, ouais. Et je crois que c'est encore plus difficile de jouer dans une petite salle que dans une grande. Parce que les petites salles, on a tendance à vraiment déjà entendre les gens, leurs réactions.
Et on les voit.
On les voit, pour certains. Une grande salle, ce que j'appelle une grande salle, j'en ai pas fait beaucoup, hein, mais j'ai fait jusqu'à 300 personnes, ce qui est déjà pas mal. On voit personne, en fait.
D'accord, la salle est plongée dans le noir.
Moi,
on s'adresse à un mur noir, en fait.
Hein. Donc on a l'impression de faire son spectacle seul, comme si c'était une répète. Et c'est là où, ouais, il y a un vrai. Moi, ce que j'aime, c'est l'échange. C'est savoir que de pouvoir faire rire les gens et partager l'envie de faire rire. En fait.
Alors, est-ce qu'il t'arrive de t'appuyer sur le public, par exemple?
Ouais.
Choisir au hasard une personne dans le public et puis, du coup, avoir comme un jeu d'échange avec cette personne?
Oui. Alors, soit c'est prévu dans le texte,
et
auquel cas, ça veut dire que je connais déjà les réponses aux questions, qu'elles soient positives ou négatives, et je pars sur un
bien
autre
sûr.
Truc. Soit c'est de l'impro, et là... Il faut pas perdre le fil de son texte, parce qu'il faut retourner ensuite dessus. Mais c'est ça qui est marrant. C'est ça que j'adore. D'ailleurs, dans certaines pièces qu'on regarde à la télé, la dernière fois, je regardais une pièce avec, je crois que c'était l'invité, avec Lelouch et Gad Elmaleh. Philippe Lelouch et Gad Elmaleh. Et en fait, on voit les moments,
si on est un peu pro,
moments d'improvisation. Les moments où l'autre a envie de faire rire son partenaire juste pour...
De le surprendre.
Voilà.
C'est ça, ouais.
Et c'est ça qui est encore plus jouissif, parce que c'est des choses qu'on est les seuls sur scène à voir.
Alors, ça fait combien de temps que tu as trouvé ce bonheur d'être sur scène?
Moi, ouais, ça fait depuis le lycée.
Depuis le lycée,
ouais.
Déjà?
Ouais. Déjà au lycée, quand je jouais de la batterie, j'organisais aussi les festivals du lycée, j'adorais. Toute cette partie d'organisation, de machin, tout ça, c'est à partir de là que j'ai voulu... je me suis dit, il faut que je me lance dans l'organisation, mais à un moment donné, il faut aussi que je gagne de l'argent, donc assureur, c'était bien. Ça me permettait d'asseoir un petit peu un truc...
C'est un métier dans lequel tu te sens bien.
L'assurance?
Oui.
Ouais, parce que j'ai choisi.
C'est pas uniquement alimentaire, c'est quelque.
Au début, c'est alimentaire, mais après, j'ai choisi. En fait, j'ai réussi à choisir, à avoir la possibilité de choisir mes clients. Et donc, d'aller vers des clients qui, non pas m'intéressent, c'est pas l'idée, mais qui font ce que j'aime faire, ce que j'aimerais faire, en fait. Oui. Je suis en train d'assurer le métier que je voudrais faire, que ah, j'aurais voulu.
C'est intéressant, ça, ouais, parce que du coup, par procuration,
exactement.
T'arrives à toucher aussi à des domaines ou à des métiers sur lesquels, en fait, tu n'es pas allé, parce qu'on voilà. peut pas aller partout.
Donc, j'ai réussi, par le biais de plein de trucs, à assurer des émissions de télé, à assurer des jeux télévisés, des festivals de musique, etc. Et de me faire inviter.
Ah, d'accord.
C'est ça. C'est pour ça que je le fais.
Très bien. Alors, on arrive maintenant à peu près à la moitié de l'émission et on va passer un titre que tu as choisi. Je vais laisser découvrir d'abord aux auditeurs, ensuite nous en parlerons ensemble.
We'll be right back.
Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.
Ouais.
Alors, pourquoi ce choix ?
C'est la chanson qui me donne la pêche. Moi, à la base, je suis batteur. Quand j'entends cette chanson, on sent que la batterie explose. Le thème est aussi sympa, puisqu'il parle de sa fille, si je ne m'abuse, hein, parce qu'après, je suis pas très très bon en anglais.
Oui, c'est une chanson voilà, sur son enfant, sur le bonheur.
Voilà. Et quand j'écoute une musique, j'entends tous les aspects de la musique, la guitare, slash à la guitare, ça explose à la fin. Moi, ça me donne la pêche. Voilà,
une chanson qui te donne de l'énergie. Oui, c'est vrai. En tout cas, ça fait partie des chansons que j'écoute, moi, en tout cas, régulièrement. Donc, c'est avec bonheur que je l'ai intégrée. Alors, si on revient sur la notion de bonheur, aujourd'hui, à quoi ressemble ton bonheur ?
Aujourd'hui, maintenant, à l'instant T ?
Oui.
À un sonal dimanche. Où je peux me reposer, penser à rien, mettre de la musique relaxante et attendre.
D'accord. Donc le bonheur, c'est prendre soin de soi.
Faire attention à soi, ouais. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps.
Qu'est-ce qui a fait que tu as dû l'apprendre ?
Jusqu'à présent, j'étais très matérialiste. C'est-à-dire qu'il me fallait tout, et une fois que je l'avais, il me fallait plus.
Mm-hmm.
Mais quand on comprend que finalement, tout ce qu'on a, bah, c'est rien par rapport à... Au plaisir simple, et que quand on est bien intérieurement, on est mieux à l'extérieur. C'est voilà, j'ai appris dernièrement ce que c'était que l'ergothérapie, l'éthiothérapie, tous les trucs qui permettent de nouer, d'avoir un meilleur, mieux intérieur, donc un bonheur intérieur, et du coup, on arrive à le communiquer aux autres.
D'accord, c'est le rapport à soi.
Ouais.
C'est le fait de... on parle aussi dans l'estime de soi, il y a l'amour de soi, il y a prendre soin de soi, faire attention à soi. Et en effet, c'est très important. C'est très important parce que nous vivons avec nous-mêmes du début jusqu'à la fin. Hein. Je dis souvent, voilà, les autres sont de passage, et tant mieux si ce passage est lumineux, s'il est enrichissant. Mais nous devons prendre soin de nous d'abord pour prendre ensuite soin des autres.
Oui.
Et c'est ça qui... Et quelquefois, ce concept-là nous arrive qu'à la maturité. Alors, tu es encore un jeune homme.
Tu trouves, hein. Merci.
Tu es encore un jeune homme et tu as donc progressé dans la maturité en disant, voilà, je dois prendre soin de mon corps, je dois prendre soin de ma vie pour pouvoir mieux ensuite m'occuper des autres.
En fait, de temps en temps, il faut savoir prendre un peu de recul, de regarder... alors, ça fait très... philosophe, mais regarder un peu les choses de haut, prendre un peu de hauteur pour comprendre et voir comment on s'immisce dans tout ça.
Ouais, et puis pas se laisser piéger justement, parce que tu parlais d'un des pièges du bonheur qui était de penser que plus de d'avantages matériels, plus d'argent, on rendrait plus heureux. On
l'abondance.
Se rend compte que finalement non. Parce que bon, il y a toujours quelqu'un qui en a plus, et puis on peut toujours développer aussi une envie, une jalousie, et puis en vouloir plus, parce que comme toute forme d'addiction. À un moment donné, on s'habitue finalement et on a besoin pour maintenir cette stimulation d'un peu plus et d'un peu plus. Alors c'est vrai pour l'argent, c'est vrai pour la notoriété, c'est vrai pour le pouvoir, c'est vrai pour beaucoup de choses. Et finalement, la maturité, c'est de se rendre compte que tout ça, c'est beaucoup de poudre aux yeux en fait. Et que finalement, le bonheur, on va le trouver à l'intérieur, on va le trouver dans une paix avec soi-même.
Ouais.
Ça, c'est quelque chose, en effet, dont j'ai déjà beaucoup parlé dans mes chroniques. Est-ce qu'il y avait une question sur le bonheur que tu aurais aimé que je te pose ?
Là, comme ça... Ouais, est-ce que... Une question qui revient un petit peu à ce qu'on a dit, c'est est-ce que, comme on dit l'adage, le bonheur, l'argent fait le bonheur, est-ce que c'est vrai ou pas ?
Alors moi, je professe depuis longtemps déjà que l'argent ne fait pas le bonheur, et il y a toujours quelqu'un pour rajouter « mais il y contribue ». Et moi, du coup, je rajoute « non, en fait, non ». L'argent, pour moi en tout cas, et je ne suis pas le seul à partager ce point de vue, parce que on en parle beaucoup aussi en psychologie positive, on en parle beaucoup en philosophie, et puis je conseille beaucoup de lire aussi le livre de Malène Riddal, qui est une psychologue et écrivaine danoise, un premier livre qui s'appelle « Heureux comme un Danois », qui nous parle voilà, pourquoi le Danemark est au top des pays où les gens se sentent les plus heureux au monde, et pourquoi ce n'est pas le pays le plus riche du monde. et l'autre livre que j'ai lu un peu plus récemment qui s'appelle justement « Les cinq pièges du bonheur » où elle décrit de façon beaucoup plus large que je ne peux le faire à la radio, comme ça, pourquoi justement l'argent ne fait pas le bonheur. Il n'y contribue même pas, dans le sens où l'argent va permettre soit de survivre, parce que si on n'a pas de quoi remplir son frigo et payer ses factures, oui, on a besoin d'argent, mais à ce moment-là, il ne va pas nous rendre heureux, il va nous permettre de survivre. Est-ce que la survie, c'est le bonheur? Je ne le crois pas. Non. D'accord. L'argent va nous permettre de satisfaire des besoins immédiats, c'est-à-dire d'avoir plus de confort. Et au lieu d'avoir une voiture d'entrée de gamme, on va s'acheter une marque prestigieuse de haut de gamme, et puis on va très vite s'y habituer, en fait. Et parce qu'on va toujours sortir un plus grand véhicule, un meilleur, avec des intérieurs cuir ou des nouvelles options. Et finalement, on va trouver que la sienne, finalement, elle n'est pas si terrible que ça. On a juste envie d'avoir la nouvelle dernière, etc. Ou la plus belle que son voisin. Donc on voit bien que l'argent va servir à nous faire du bien. Il va servir à satisfaire des plaisirs. Mais les plaisirs, c'est ce qu'on appelle le bonheur hédonique ou hédoniste. C'est un bonheur qui disparaît très vite. Et donc, on a besoin très rapidement de le recharger, de le reprendre, etc. Hein, comme après avoir mangé un bon repas, bon, une fois qu'on l'a digéré, et voilà, what else, voilà, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va pas forcément retourner dans la tour d'argent dès le lendemain, d'accord? Mmh. Donc, il faut savoir profiter, en effet, des plaisirs, mais bien de se dire que c'est pas ça qui nous rend heureux. Ce qui va nous rendre heureux, c'est des plaisirs à beaucoup long terme, c'est-à-dire quelque chose qui va perdurer dans le temps, qui va être beaucoup plus pérenne, et chaque fois qu'on va s'investir dans quelque chose, si on apprend à jouer d'un instrument de musique, en effet, on va développer un plaisir, mais qui est beaucoup plus long, parce qu'il y a tout de l'apprentissage, il y a la patience, qui fait qu'au début, on n'y arrive pas, et puis au fur et à mesure, on apprend de mieux en mieux, et puis ensuite, on maîtrise, et puis ensuite, on est capable de faire quelque chose, et ce plaisir-là est un plaisir à beaucoup plus long terme, en fait. Et là, on parle, en effet, là, c'est un vrai bonheur, mais qui vient d'un effort intérieur, qui vient de quelque chose de personnel. Donc, l'argent contribue au confort, l'argent contribue à satisfaire des plaisirs immédiats, mais c'est pas ça le bonheur. Voilà ma réponse. Un peu longue, peut-être, non?
Très bien. J'aurais pas dit mieux.
Alors, maintenant, on va passer dans une phase qui est où tu vas tirer une petite carte sur l'optimisme. Il me semble, est-ce que tu es quelqu'un d'optimiste?
En règle générale, je pense que oui.
En règle générale?
Oui.
Ça veut dire?
Ça veut dire que je suis plutôt plus optimiste que pessimiste. Après, il y a des trucs...
Voilà, mais tu peux passer par des phases où tu vois le mauvais côté des choses d'abord, c'est ça?
Oui.
Mais elles sont plus rares que les autres.
Voilà.
D'accord. Alors, je vais te faire tirer une carte qui, au hasard, simplement, pour avoir une question sur l'optimisme.
Je te la dis pas, d'accord. Tu la redécouvres après.
Et donc, moi, toi, tu vas lire. non, c'est pas de la magie. tu vas simplement, c'est pour que ce soit le hasard qui fait que tu prends une carte et pas une autre. J'en ai pris trois carrément. Alors, lis-nous cette question-là.
Qu'est-ce qui te rend créatif?
Ah, voilà, une question pour un artiste. Qu'est-ce qui te rend créatif?
Ah, si je dois mettre ça par rapport à mes textes que j'écris, c'est surtout quand je... C'est tout bête, hein, mais c'est quand je vais au bar prendre un café et que je regarde autour de moi.
D'accord.
J'observe.
Donc tu t'arrêtes, tu observes,
ouais.
Tu regardes la vie autour de toi, tu regardes les gens... Et là, des idées arrivent. C'est-à-dire que tu imagines les situations en les poussant à l'extrême.
Alors, soit en les poussant à l'extrême, soit tout simplement en reprenant mot pour mot, textuellement, les phrases qui sortent.
D'accord.
C'est assez marrant.
Et là, le café, le bar, c'est une ressource importante.
C'est inépuisable.
Les brefs de comptoir nous l'ont prouvé depuis longtemps.
C'est inépuisable. Il y a un avis sur tout.
Bien sûr.
C'est ça qui est génial. Il y a un avis auquel moi, je ne penserais même pas.
oui, on est peut-être décontenancé par les points de vue.
Et c'est là où c'est drôle.
Ah, bien sûr. Et donc, c'est comme ça que te vient, toi, la créativité pour démarrer une idée, pour démarrer un texte?
Oui, j'ai plein de sujets. J'arrive pas à les développer, mais j'ai plein de sujets.
Ah, d'accord.
J'ai des idées, je note, j'ai plein de
trucs. T'as pas l'angoisse de la page blanche, t'as l'angoisse de la page remplie, en fait.
C'est ça, en fait, ouais, souvent, il y a trop de choses et c'est difficile... de dire quel est le meilleur et de prendre justement le recul sur son propre texte et de dire ça c'est bon, ça c'est pas bon.
C'est à ce moment-là que tu as besoin du regard extérieur.
Voilà.
D'accord.
C'est là où...
Pour élaguer. D'accord, garder juste l'essentiel.
Voilà. Oui,
et puis peut-être trouver des plus de percussions aussi, pour revenir un petit peu à la batterie, quoi, parce qu'un texte aussi, il doit surprendre. Enfin, moi, ce que j'adore, hein, les gens qui font du stand-up, et j'aime à chaque fois être surpris, quoi. Je m'attendais pas à la fin du sketch, et je trouve ça magnifique. Eh bien, écoute, je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions et toutes ces surprises. Maintenant arrive l'heure du conte.
Ah.
Ce conte s'appelle L'érable. Un homme ayant hérité d'un superbe terrain, au bout de son terrain se trouvait un érable magnifique. Mais cet homme venait de la ville et ne connaissait rien aux arbres. Il vint trouver l'érable vers la mi-juillet et lui dit « Donne-moi de ta sève sucrée que j'en fasse du sirop !» L'érable lui répondit « Mais je n'ai plus de sève à donner, elle est toute repartie dans mes feuilles. » L'homme revint à la fin octobre et dit à l'érable « C'est l'été indien, il fait chaud, donne-moi de l'ombre. » L'arbre lui répond « Mais je n'ai plus d'ombre à donner parce que le vent m'a pris toutes mes feuilles. » Déçu, l'homme revint uniquement 6 mois plus tard, à la mi-mars. Il dit à l'arbre « Oh, je suis fatigué de ne voir que le blanc de la neige, donne-moi tes belles couleurs d'or et de rouille. » Mais l'érable était si occupé à pomper la vie dans ses bourgeons qu'il ne l'entendit même pas. Furieux, l'homme le coupa et le brûla. En demandant à l'autre ce qu'il ne peut pas donner, on ne voit plus ce qu'il peut offrir, et on le passe à côté de bien des joies. Eh bien, c'était Jean-Marie Marcos avec Michael Brami pour Invitation au bonheur. Je vais maintenant partager un titre de ma propre playlist du bonheur, encore un titre rock, pour faire écho aux Guns N' Roses. Mais auparavant, je vous donne déjà rendez-vous lundi prochain à 19h pour Radio Axe. Et d'ici là, soyez heureux. Merci Michael, à bientôt.
À bientôt.